France Culture.
La science CQFD, Antoine Beauchamp.
Le système solaire est traversé par des centaines de milliers d'astéroïdes et de comètes aux formes étranges. Que sait-on au juste des règles de gravité qui règnent à la surface de ces petits corps ? Nous sommes habitués sur Terre à une certaine physique de la gravité bien connue. Pour les astéroïdes et les comètes, les choses sont beaucoup moins simples et on se demande de plus en plus de quoi est faite leur microgravité. Depuis des décennies, c'est ce à quoi s'emploient certaines missions spatiales, mais aussi des équipes de recherche qui tentent de recréer ces conditions physiques en laboratoire. Des travaux qui pourraient servir à détourner un astéroïde sans catastrophe, ou bien même, dans un futur fictif, à aller puiser des minerais sur des astéroïdes. Microgravité, l'astre et la matière. Nous sommes en ligne aujourd'hui depuis les studios d'ICI Occitanie à Toulouse avec Naomi Murdoch. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes planétologue, chercheuse au sein du groupe de recherche Systèmes spatiaux pour la planétologie et ses applications de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace. Et nous sommes également en ligne avec Patrick Michel. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicien, directeur de recherche CNRS au laboratoire Lagrange de l'Observatoire de la Côte d'Azur. Vous êtes par ailleurs l'auteur du livre « À la rencontre des astéroïdes, les missions spatiales et la défense de la planète » aux éditions Odile Jacob. Bienvenue à tous les deux, merci de vous joindre à nous et bienvenue à vous qui nous écoutez. Si vous avez envie de consulter une partie de notre bibliographie, c'est possible. On partage, comme vous le savez, tous les jours les liens vers les articles qui nous ont permis de préparer cette émission sur le site de la Science CQFD, mais aussi sur notre compte Blue Sky @sciencecqfd. Et pour ouvrir cette émission sur la microgravité, sur ces petits corps qui volent dans notre système solaire, je vous propose d'écouter une archive qui va nous permettre de plonger d'emblée dans les enjeux de notre sujet. En 2022, la mission DART ERA, que vous connaissez bien Patrick Michel, partait en direction d'un astéroïde baptisé Dimorphos. Écoutez cette archive tirée d'une vidéo du média en ligne Le Blob, datée du 28 septembre 2022.
4, 3, 2, 1. Oh my gosh. Oh wow.
Mardi 27 septembre à 1h14 heure française, la sonde DART est venue percuter l'astéroïde Dimorphos à plus de 20 000 km/h. L'objectif, dévier cet astéroïde de son orbite autour de Didymos. La collision a eu lieu à 11 millions de kilomètres de la Terre et a pu être suivie grâce à Draco, une caméra embarquée dans la sonde qui retransmettait une image par seconde. Les dernières images envoyées ont permis de connaître la forme de Dimorphos, inconnue jusque-là, et ont révélé une surface rocailleuse. Si l'on est sûr que Dimorphos a bien été touché, il faudra encore quelques semaines pour s'assurer que l'impact a bien entraîné sa déviation, le temps que d'autres images, prises notamment par l'ICIACUBE et les télescopes spatiaux Hubble et James Webb, nous parviennent.
Voilà Patrick Michel, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre cette musique spectaculaire et de vous rappeler de ce souvenir ?
Oh bah c'est extraordinaire. Enfin moi ça me rappelle des souvenirs. On m'aurait entendu crier si vous aviez passé un certain extrait de vidéo. Bah c'est un moment historique parce que c'est quand même la première fois dans l'humanité que on dévie un corps céleste de sa trajectoire. Alors pas sa trajectoire autour du Soleil, autour d'un autre corps, mais peu importe. On a réussi ce challenge de guider de façon autonome une sonde à très haute vitesse, 24 000 km/h, pour taper dans un corps qui est tout petit, hein, 150 mètres de diamètre, donc justement de très faible gravité. Donc c'est magnifique.
Alors je disais tout à l'heure, Patrick Michel, que depuis des décennies, les astéroïdes ou les comètes font l'objet de recherches particulièrement actives et d'une certaine façon constituent l'une des grandes voies de l'exploration spatiale actuellement. Est-ce que toutes ces missions qui, comme DART ERA, cherchent à se rapprocher d'un astéroïde, se posent à un moment donné la question de la gravité de ces corps-là ?
Ah ben oui, nécessairement, parce qu'en fait, si on veut interagir avec eux, si on veut en extraire des matériaux, que ce soit pour récolter des échantillons, les ramener sur Terre, si on veut taper dedans pour les dévier ou d'autres objectifs, eh bien, il faut bien comprendre dans quel environnement, en fait, on fait ces opérations-là. Et le fait qu'on est dans une très faible gravité est effectivement un paramètre très important. On le verra probablement que ça nous soumet parfois à des comportements qui sont contre-intuitifs. Par Par exemple, Dimorphos, ici, sur lequel on a tapé, on avait deux challenges. D'abord, il fait 150 mètres de diamètre, donc nos modélisations d'impact, on les valide plutôt en laboratoire, en tirant sur des cibles centimétriques. Donc, extrapoler nos connaissances de taille centimétrique à des objets de 100 mètres de diamètre, évidemment, c'est pas évident. Et en plus, on est dans des conditions de très faible gravité. Dimorphos, si je suis dessus et que je veux sauter pour ne plus retomber, donc pour échapper à sa gravité, il suffit que je saute à 6 cm par seconde seulement. Donc prenez une règle, mettez 6 cm et mettez une seconde, vous voyez, c'est très très lent. Donc en fait, on est dans un environnement extrêmement sensible, et c'est donc un paramètre très important pour préparer toutes les opérations qu'on veut faire pour aller les explorer, soit scientifiquement ou pour s'en défendre, s'en protéger.
Naomi Murdoch, j'évoquais voilà, cette foule de petits corps qui gravitent dans le système solaire. C'est une foule très bigarrée, très variée. Quels sont, on va le dire, les points communs à tous les astéroïdes? Comment on peut les décrire, les définir de façon assez générique?
Alors, pour comprendre les astéroïdes, il faut vraiment revenir au début de notre système solaire, en fait. S'il y a 4,5 milliards d'années, le système solaire s'est formé à partir d'un grand nuage de gaz et de poussière. Et au centre de ces nuages, il y avait une étoile qui s'est formée. Cette étoile étant notre Soleil. Autour de cette étoile, il y avait beaucoup de petits morceaux de poussière qui sont collés ensemble. Ils ont formé des cailloux. Ensuite, les cailloux sont collés ensemble pour former des plus grands cailloux. Et ainsi de suite, jusqu'à former des protoplanètes et des planètes. Alors, toute la matière qui n'a pas terminé dans une planète, c'est les restants de cette formation planétaire. C'est ce qu'on appelle les petits corps, donc les astéroïdes et les comètes qui restent dans le système solaire. Donc les astéroïdes les plus partent se retrouvent entre Mars et Jupiter, même s'ils se baladent d'ailleurs dans le système solaire aussi. Et ils ont des orbites plutôt circulaires et ils sont plutôt rocheux comme matériaux.
Voilà, donc ça, cette question de la matière des astéroïdes, c'est important de se la poser. Patrick Michel, est-ce que tous les astéroïdes sont composés d'un seul tenant ou bien sont-ils composites et sont finalement plus un agglomérat que des objets uniformes?
Déjà, il faut distinguer la composition minéralogique et chimique de la composition en termes de structure. Et dans les deux cas, on a une grande variété. Donc, en composition, en fait, les astéroïdes vont de corps purement rocheux à des corps métalliques, à des corps même riches en matière organique et même en eau et en glace. Tout ça parqué entre Mars et Jupiter. Donc, il y a eu un grand mélange de composition à un certain moment dans le système solaire qui explique cette diversité. Et puis, comme ce sont des objets qui sont soumis à des processus externes et en particulier les collisions, hein, ils se rentrent dedans petit à petit, cette ceinture elle détruit des corps, les corps plus gros pour les transformer en corps plus petits, et bien nécessairement ils sont sculptés par ces collisions. Et ce qu'on a montré au début des années 2000 en simulant intégralement le processus de destruction d'un astéroïde tel qu'il se produit dans la ceinture, et bien c'est que aux énergies de collision qui ont lieu dans cette ceinture, si on part de corps plus grands que quelques centaines de mètres, hein, voire à jusqu'à 100 km de diamètre, on commence par le pulvériser en petits fragments qui font quelques dizaines de mètres de diamètre au plus. Et en fait, quand ces fragments sont éjectés, s'échappent, ils se suivent et ils peuvent ressentir leur gravité qui est pourtant très faible pour se réagglomérer. Et au final, on aboutit à un groupe de corps qui ne sont plus des objets solides, des roches monolithiques, mais plutôt des agglomérats formés à partir de la destruction d'un plus gros corps sur la base de fragments qui se suivent et qui se réagglomèrent. Et c'est pour ça que dans la plupart des astéroïdes plus petits que quelques dizaines de kilomètres de diamètre, qui sont au moins de deuxième génération, c'est-à-dire issus d'un corps plus gros, eh bien on doit se retrouver avec des objets de structure très complexe, faits de rochers liés entre eux par leur propre gravité, ce qui d'ailleurs aboutit à une grande variété de formes.
Alors ce côté aggloméré des astéroïdes, Naomi Murdoch, ça nous renvoie vers une question et vers un terme qu'il est important de définir et qui fait référence et qui vient de la physique granulaire, c'est le terme de cohésion. Pourquoi cette notion est-elle aussi importante quand on parle de la surface des astéroïdes et qu'est-ce qu'on peut en dire du point de vue de la physique granulaire? C'est un sujet qui est assez complexe, je crois. Naomi Murdoch, est-ce que vous nous entendez? Est-ce qu'on a peut-être perdu le duplex ici Occitanie? C'est pas impossible. Patrick Michel, du coup, je vous pose la même question.
Absolument. Alors en fait, la chose qui est très intéressante, c'est que ce dont on s'est aperçu, c'est que quand on est sur des corps qui attirent très faiblement, en fait, il y a des paramètres qui prennent beaucoup plus d'importance que dans les conditions terrestres. Et puisqu'il n'y a pas la gravité pour compenser n'importe quelle autre force, et en particulier la cohésion, qui est en fait l'espèce de colle qui permet à des grains de sable de rester ensemble quand on essaie de les dissoudre dans la main, par exemple, eh bien elle prend une importance quand elle existe qu'elle n'a pas sur Terre. Donc pour le dire simplement, si je prends une feuille d'arbre et que je la fais poser sur ma main, je la ressens à peine, hein, eh bien ça correspond à une pression de 1 pascal. Et bien sur un astéroïde, on est sensible au dixième de ça. Parce que comme il n'y a pas de très peu de gravité, un petit chouïa de cohésion, eh bien, prend son importance. Et on s'en est aperçu dans des missions spatiales qui ont interagi avec des astéroïdes, par exemple la mission Osiris-Rex de la NASA, qui a récolté un échantillon d'astéroïdes pour le ramener sur Terre. Eh bien, on est resté 2 ans autour de l'astéroïde Bennu, qui fait donc 500 mètres de diamètre et qui est très peu dense, donc il a très peu de gravité. On voyait sur les images extraordinaires des tas de rochers, des cailloux, d'ailleurs très peu de sable fin. Donc on avait l'impression que la surface était solide. Et quand le mécanisme de récolte s'est posé pour récolter un échantillon, eh bien en fait, il s'est enfoncé dans la surface comme s'il rentrait dans un fluide ou j'allais dire un beurre fondu. Donc comme s'il n'y avait pas de résistance, alors que pourtant, sur la base des images, on avait des cailloux. Et ce dont on s'est aperçu, c'est qu'en fait, même si un objet a l'air d'être un caillou sur un astéroïde, en fait, comme il n'y a pas de gravité, il suffit d'un tout petit chouïa de cohésion pour le faire exister comme un caillou. Ce même caillou, je le mets sur Terre, il s'écroule. Mais comme sur un astéroïde, il y a très peu de gravité, un tout petit chouïa de cohésion peut permettre de le faire exister comme un caillou. Simplement, évidemment, quand j'arrive avec mon mécanisme de récolte et que je le touche, tout s'écroule et il n'y a plus de résistance.
Là, on comprend bien, donc, du coup, Patrick Michel, l'importance de comprendre la cohésion liée à ces astéroïdes pour savoir si on va pouvoir se poser sur la surface de l'astéroïde ou si on va s'y enfoncer, comme vous le disiez tout à l'heure, un petit peu comme dans un sable mouvant.
Absolument, c'est fondamental parce que justement, si on veut concevoir des outils pour récolter des échantillons ou même des techniques pour les dévier, eh bien, l'efficacité va dépendre de la réponse mécanique de la surface. Et celle-ci, on s'en est aperçu donc récemment en ayant interagi avec ces objets, eh bien, peut être inattendue et complexe du fait que parfois les images ne suffisent pas à nous dire comment va se comporter la surface parce que on est dans un environnement qui était très contre-intuitif pour nous. Nous, tous les jours, on expérimente la gravité terrestre, donc on est soumis dans notre intuition au comportement qu'on observe sur Terre et dans ces milieux de microgravité, eh bien, même si les lois de la physique sont les mêmes, les comportements peuvent être très différents du fait que on a une sensibilité inférieure à la gravité par rapport à d'autres forces qui, elles, sont plutôt négligeables sur Terre.
Naomi Murdoch, est-ce qu'on peut dire d'une certaine façon que ces missions qui se sont rapprochées, voire se sont posées à la surface d'astéroïdes, sont des sortes de mises à l'épreuve très concrètes de toutes ces théories qui portent sur cette cohésion, théorie, donc, je le rappelle, et des termes, je le rappelle, qui viennent de la physique granulaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'importance de ces missions-là vis-à-vis de la théorie de la cohésion?
Oui, bien sûr. Donc la cohésion, en fait, c'est un grand sujet, même pour ceux qui étudient les milieux granulaires terrestres. C'est la cohésion, c'est la force qui maintient ensemble les matériaux, les particules, un peu comme la colle naturelle entre différentes parties d'un objet. Il y a beaucoup de types de cohésion différentes. Et quand on va penser à différents endroits dans le système solaire, la cohésion qui sera dominant, c'est pas toujours le même. Donc, par exemple, ici sur Terre, suivant la cohésion dans des milieux, ça vient de l'humidité. Par exemple, si on va à la plage, on peut pas construire un château de sable avec du sable sec. Mais dès qu'on ajoute un peu d'eau, avec l'eau qui forme des petits ponts liquides entre les grains, on peut maintenant construire un château de sable. Et ça, c'est des forces cohésives entre les grains qui viennent de ce liquide, de la présence du liquide. Si on pense par exemple à la Lune, il n'y a pas de liquide à la surface, mais on peut quand même voir, quand on voit les images des astronautes Apollo, les combinaisons sont couvertes d'une poussière très fine, et c'est à cause des forces électrostatiques Donc, ces forces électrostatiques, c'est une autre forme de cohésion qui provient des charges électriques et ça fait coller la poussière aux surfaces. Et du coup, ça existe sur les astéroïdes aussi, en plus d'exister sur la Lune.
Et on va y venir, bien sûr, puisque si vous parlez de la Lune, vous me tendez une perche vraiment parfaite pour parler justement de la différence de taille qui existe et de la différence de gravité liée à ces tailles. On y vient dans un instant.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
Et Natacha Triou, vous la retrouverez lundi. On poursuit avec vous, Naomi Murdoch et Patrick Michel, cette enquête sur les conditions de gravité des petits corps de notre système solaire et des questions que cela nous pose. Alors Naomi Murdoch, je vous ai un petit peu interrompu brutalement, mais parce que j'avais une question à vous poser finalement, c'est cette question des formes. On parlait des astéroïdes qui avaient des formes biscornues. Pourquoi les planètes sont rondes et pourquoi les astéroïdes ont ces formes aussi étranges et quel lien y a-t-il avec la gravité dans tout ça ?
Oui, bien sûr. Donc, les planètes sont rondes parce qu'elles sont très massives. Donc, leur propre gravité attire toute la matière vers le centre. Et parce que cette force est uniforme dans toutes les directions, en fait, ça a un effet d'arrondir la forme de ces objets, un peu comme une goutte d'eau dans l'espace. Et aussi, quand un objet est très gros, l'intérieur peut chauffer et ça peut aussi faire fondre partiellement l'intérieur et ça peut faciliter le mouvement de matériaux et ça aide à former, à donner cette forme très ronde plus rapidement. Les astéroïdes, au contraire, sont beaucoup plus petits que les planètes, beaucoup moins massives. Et en conséquence, leur gravité est trop faible pour tirer toute la matière vers le centre. Et du coup, ils ne peuvent pas s'étirer eux-mêmes en boule. Et en conséquence, leur forme reste plutôt irrégulière, comme une pomme de terre ou un caillou, en fait.
Patrick Michel, sur cette différence de gravité entre planète et lune, et grande lune, on va dire, et astéroïdes, revenons-en un petit peu à notre sujet, à ces astéroïdes. Je disais qu'ils avaient tous des formes biscornues et en plus ils ont tous des formes différentes. Alors ça doit poser un gros problème de catégorisation et de compréhension même de ces gravités. Est-ce que chaque astéroïde pris individuellement a un degré de gravité qui lui est propre ?
Ah ben oui, ça dépend de sa masse en fait, qui dépend donc de sa densité et de son volume. Et comme les formes sont différentes et les tailles sont différentes, ben pour une même densité, on aura une masse différente et donc une gravité différente. Et ce qui est très intéressant d'ailleurs, pour en revenir au milieu granulaire, c'est qu'un astéroïde qui serait fait d'un sable qui n'a pas de cohésion, hein, c'est pas pour autant qu'il en serait un fluide. Donc même si le sable n'a pas de cohésion, il n'est pas obligé de prendre une forme sphérique. Pourquoi ? Parce que même un sable sans cohésion, il est soumis à une certaine résistance qu'on appelle la résistance au cisaillement. Cette résistance, elle vient du fait que pour pouvoir s'écarter, bouger, les grains de sable, ils doivent s'écarter les uns des autres. Et la pression qu'on exerce, eh bien, empêche cela. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut marcher sur du sable et pas dans de l'eau, parce que quand j'appuie sur le sable, eh bien, je renforce l'imbrication entre les grains et donc je renforce la résistance au cisaillement. Donc ça veut dire que, en plus de la cohésion, il y a d'autres forces mises en jeu dans les solides qui sont pas mises en jeu dans de l'eau. Alors quand une planète est très grosse, toutes ces forces-là deviennent négligeables par rapport à la gravité. Comme le dit Naomi, et bien évidemment, tout est attiré vers le centre et on aboutit à cette forme sphérique. Mais dans le cas des astéroïdes qui sont des roches et qui ont en plus très peu de gravité, eh bien comme on l'a déjà dit, en fait toutes les autres forces commencent à prendre de l'importance, même s'il n'y a pas de cohésion. Et du coup, ils peuvent prendre des formes très variées et leur gravité dépend purement de leur masse. Et comme ils ont des masses très différentes, parce qu'on a une distribution de taille, le plus gros astéroïde s'appelle Cérès, il fait 950 km de diamètre. Et puis après, on descend en taille, on estime qu'on a 1 million d'astéroïdes de 1 km de diamètre. Donc évidemment, avec tous ces corps qui ont des tailles variées, on a aussi des conditions de gravité variées. Et ça aussi, c'est notre challenge. Quand on envoie une mission spatiale, on ne sera pas nécessairement soumis à la même gravité qu'une mission précédente qui est allée voir un autre corps. Et tout ça, il faut bien sûr le prendre en compte pour toutes les opérations à proximité.
Et Patrick Michel aussi, il faut dire que c'est compliqué, doublement compliqué, parce que sur un même astéroïde, en différents points d'un même astéroïde, on peut avoir des conditions de gravité différentes.
Absolument. Si on a une montagne, on a plus de masse, donc on a plus de gravité. Alors heureusement, il n'y a pas, même quand ils ont des formes biscornues, des énormes variations qui poserait des problèmes aux opérations, mais on n'a pas une gravité uniforme. Et donc, selon où on est sur l'astéroïde, on sautera pas à la même vitesse pour s'en échapper.
Naomi Murdoch, tout à l'heure, vous évoquiez l'une de ces forces qui pourrait expliquer finalement le comportement gravitationnel à la surface des astéroïdes, c'est la force électrostatique. J'ai lu aussi en préparant cette émission qu'il y a d'autres types de forces dont on parle quand on parle de gravité, de microgravité, c'est les forces de van der Waals. Est-ce que vous pourriez nous synthétiser en quelques mots ce que sont ces forces et à quel endroit elles vont jouer finalement quand on parle de microgravité sur ces astéroïdes?
Oui, bien sûr. La cohésion due aux forces van der Waals, ça provient des forces qui sont très, très, très faibles entre les molécules et les atomes. Donc, ces forces, ils agissent seulement à des distances très, très, très courtes, donc à l'échelle de nanomètres, et ils sont très faibles. Mais ils peuvent s'additionner pour créer une cohésion notable. Un bon exemple, en fait, c'est les geckos qui arrivent à marcher sur les murs. En fait, ils arrivent à marcher sur les murs grâce à ces forces de van der Waals sur leurs pieds. Donc, comment c'est important pour les astéroïdes? En fait, on se rend compte que certains astéroïdes ont un niveau de cohésion qui peuvent être important. Par exemple, si on prend les astéroïdes qui tournent vite, certains astéroïdes tournent très vite, si vite que normalement, la force centrifuge peut dépasser sa gravité et faire casser ou séparer cet astéroïde en plusieurs morceaux. Mais pourtant, on voit que cet astéroïde reste dans un seul morceau. Pourquoi? On pense qu'il y a des toutes petites forces de cohésion qui viennent de ces forces de van der Waals qui maintiennent les astéroïdes ensemble. Parce que même dans cet environnement de très 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 faible gravité, même si la force de van der Waals est incroyablement faible, ça peut dominer quand même la force de la gravité.
Patrick Michel, on le voit, c'est un vrai casse-tête de comprendre cette microgravité à la surface des astéroïdes, puisqu'à l'instant, Naomi Murdoch souligne un phénomène important. Cette rotation parfois si rapide que, selon la gravité, selon les lois de la gravité, cet astéroïde devrait se disloquer, et finalement, il ne se disloque pas. Et donc là, on faisait référence, bien sûr, aux forces de van der Waals pour éventuellement expliquer ce comportement et le fait que cet astéroïde reste d'un seul tenant. Du coup, la recherche autour de cette microgravité des astéroïdes, elle passe par quoi? Comment? Quelle stratégie on développe pour comprendre la gravité de ces tout petits corps? Et finalement, si on en vient à quelques-unes de ces missions, quel rôle vont jouer ces missions dans la compréhension directe de la gravité des astéroïdes?
Oui, alors d'abord c'est ça qui est génial, c'est que c'est compliqué, nous on adore ça. C'est des défis géniaux d'essayer de comprendre le comportement de la matière dans des conditions différentes de la nôtre. Enfin, ça m'émerveille. Alors il y a plusieurs façons de le faire. On peut faire des expériences en microgravité. D'ailleurs Naomi en a fait, elle pourra en parler, avec des vols paraboliques à bord d'un Airbus où on fait faire des paraboles qui nous mettent pendant une vingtaine de secondes dans des conditions de gravité faible, alors c'est pas nécessairement de la microgravité, mais au moins de gravité plus faible que sur Terre, et en faisant des expériences, on observe comment la matière évolue. Ensuite, on peut faire de la simulation numérique, donc là, on développe des programmes informatiques qui incluent toute la physique des milieux granulaires, très complexes, en calculant toutes les forces de contact entre les grains au cours du temps, et là, on fait varier la gravité comme on veut. Bon, bien sûr, ces simulations, il faut les valider avec des expériences réelles, parce que c'est une physique complexe. Il faut s'assurer que les calculs reproduisent bien une réalité, d'où l'intérêt de faire des expériences avec des vols paraboliques pour faire des comparaisons. Et puis, bien sûr, après, pour aller beaucoup plus loin et se mettre vraiment dans les bonnes conditions, parce que sur un astéroïde, on a parfois un millionième de la gravité terrestre, atteindre ça dans des expériences, c'est pas du tout facile. Eh bien, évidemment, le mieux, c'est toutes les missions spatiales qui vont interagir directement avec eux, sachant en plus qu'une autre difficulté pour les expériences que l'on fait avec des vols paraboliques, c'est que la microgravité implique un temps plus long pour un même processus. Donc, quand on n'a que 20 secondes pour faire une expérience, on n'a peut-être pas nécessairement, selon ce qu'on veut étudier, le temps de voir comment le phénomène se déroule. Je prends un exemple très simple.
D'où l'intérêt, Patrick Michel, je vous interromps juste deux petites secondes, oui. D'où l'intérêt d'aller toucher vraiment ces astéroïdes pour pouvoir voir en temps réel ce qui se passe là où on aurait du mal, puisque, comme vous le dites, tout est beaucoup plus lent sur un astéroïde et d'une certaine façon beaucoup plus beau. Enfin, moi, j'imagine cette espèce de subtilité d'un mouvement, d'un impact et une très grande lenteur.
C'est merveilleux. C'est merveilleux, on a fait une expérience d'impact avec la mission Hayabusa 2 de japonaise. Pour le coup, là, on a pu observer l'impact lui-même, ce qu'on n'a pas pu faire avec DART, puisque la sonde a explosé. Et le cratère, qui mettrait quelques secondes sur Terre à se développer, a mis une dizaine de minutes. Donc vous voyez comme un ralenti d'un phénomène que vous pouvez voir et que vous pouvez étudier. Mais bien sûr, on ne peut pas se mettre dans ces conditions-là 10 minutes dans une expérience. C'est pourquoi, et c'est là la chance qu'on a, on vit l'âge d'or de l'exploration des astéroïdes, on a des missions qui interagissent directement et qui font que petit à petit, ce caractère contre-intuitif de nos comportements, bien petit à petit, on va se l'appréhender et ça va devenir quelque chose de naturel pour nous, mais on n'en est pas encore là.
Mmh. Naomi Murdoch, Patrick Michel soulignait à l'instant aussi les expériences qui sont faites sur Terre, en laboratoire, dans ces expériences de micro-pesanteur, comment on peut les décrire et qu'est-ce qu'elles nous apprennent sur cette microgravité des astéroïdes ?
Alors, il y a plusieurs façons sur Terre de récréer le microgravité, mais pour faire cela, il faut pouvoir mettre une expérience dans un état de chute libre. Donc, on peut le faire, par exemple, dans les stations spatiales ou avec une fusée sonde, mais plus accessible sont les vols paraboliques. Donc, c'est un avion qui effectue une trajectoire en forme de parabole. Et ça crée environ 20 secondes de microgravité à chaque passage. Donc j'ai eu l'opportunité de faire voler une expérience il y a quelques années en vol parabolique. Et on a pu étudier comment un milieu granulaire, comment le comportement et les interactions entre les grains changent quand on change de gravité. Autrement, il y a des tours de chute qu'on peut utiliser aussi. Donc là, l'idée, c'est qu'on va lâcher une expérience et pendant que ça tombe, l'expérience sera en chute libre, recréant la sensation de microgravité pendant quelques secondes. Donc le plus grand tour en Europe, c'est à Brême en Allemagne, c'est à peu près 100 mètres de haut et on peut faire des expériences de tout type là pour s'approcher à la gravité d'astéroïdes.
Et une question de total béotien, Naomi Murdoch, mais dans ces tours de chute libre ou bien dans ces expériences avec des avions en chute libre, est-ce qu'on peut arriver à des degrés différents de microgravité qui permettraient de faire des parallèles avec des astéroïdes avec des microgravités différentes ?
Alors, ce qui est très intéressant avec tous ces moyens, c'est qu'on peut aller à des différents niveaux de microgravité, mais on peut surtout annuler le fait de la gravité terrestre. Une chose qui est difficile avec ces moyens, c'est de pouvoir choisir la gravité qu'on souhaite tester. Donc, il y a certains dispositifs qui existent en ce moment pour, par exemple, tester les gravités lunaires et les gravités martiennes. Mais il manque encore des dispositifs, des moyens pour pouvoir tester à n'importe quel niveau de gravité. Et en fait, c'est quelque chose que nous sommes en train de développer aujourd'hui à Toulouse, à l'ISA Superhéros, dans le contexte d'un projet européen qui s'appelle Gravité. Nous sommes en train de développer une machine pour justement varier les gravités, pour pouvoir choisir la gravité qu'on souhaite pour notre expérience entre la gravité terrestre et une gravité 1000 fois inférieure à la gravité terrestre.
Elle ressemblerait à quoi cette machine ? Je suis curieux.
Alors, c'est une machine qui, c'est une tour qui est 7 ou 8 mètres de haut. Et là-dedans, nous allons mettre une nacelle comme un ascenseur qui monte et qui descend. Et en contrôlant l'accélération de cet ascenseur qui monte et qui descend, nous allons pouvoir recréer une gravité ressentie à l'intérieur qui est différente. Donc, la machine contrôle l'accélération de l'ascenseur.
Impressionnant, merci beaucoup pour cette démonstration. Restez avec nous parce qu'on va poursuivre dans un instant cette émission sur la microgravité des astéroïdes. Ce sera juste après ça.
Oh shit. va changer. Dans la pluie, j'attendrai que l'amour inverse la gravité. Oh, tu sais.
Par Flavien Berger dans la science CQFD sur France Culture. Nous parlons aujourd'hui de la microgravité sur ces astéroïdes et comètes qui occupent une place de choix aujourd'hui dans le domaine de l'exploration spatiale. Et nous en parlons avec Naomi Murdoch, planétologue, chercheuse au sein du groupe de recherche Systèmes spatiaux pour la planétologie et ses applications de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, et en compagnie également de Patrick Michel, astrophysicien, directeur de recherche CNRS au laboratoire Lagrange de l'Observatoire de la Côte d'Azur. Alors j'aimerais qu'on change un tout petit peu d'échelle et qu'on parle des anneaux de matière qui entourent notamment Saturne, mais aussi Jupiter, Neptune et Uranus, parce que eux aussi d'une certaine façon nous posent des questions concernant ce qui fait que la matière va s'accréter ou pas. Patrick Michel, c'est une bizarrerie ça aussi, le fait par exemple qu'une planète comme Saturne est un anneau de matière qui l'entoure et que cette matière non seulement ne s'accrète pas, mais ne forme pas non plus de lune. Comment expliquer l'existence de ces grands anneaux qui là aussi ont l'air éternels et immuables ?
Oui, alors il y a une manière de l'expliquer, c'est qu'en fait il y a une limite à une planète où un corps ne peut pas exister. Parce que la gravité de la planète, eh bien, compense la gravité du corps et sa résistance. Et ça s'appelle la limite de Roche. C'était Roche au 19e siècle qui l'avait calculé. Ça se calcule analytiquement pour un fluide. Et c'est d'ailleurs marrant parce qu'on utilise toujours la limite de Roche, même pour une roche. Pour le coup, il s'appelle Roche aussi, donc ça peut, c'est un peu bizarre. Mais et en fait, une roche, même sans cohésion, sa limite de Roche, elle est inférieure à la limite de Roche du fluide. Donc ça, c'est déjà à savoir. Mais en tout cas, dès qu'on passe cette limite, cette distance à la planète, on ne peut pas exister en tant que lune. Et donc, on est détruit. Et donc, sous certaines conditions, on peut former un anneau, ce qui est le cas de Saturne. Donc en fait, il y a des anneaux qu'on peut très bien expliquer par le fait qu'ils sont à l'intérieur de la limite de Roche, de la distance à la planète à laquelle un corps n'est pas disloqué. Et cependant, on a découvert récemment un anneau autour d'un objet qui est au-delà dans la ceinture de Kuiper, hein, donc au-delà de Saturne et de Neptune, qui s'appelle Quaoar. Et cet anneau, eh bien, est à une distance qui est au-delà de la limite de Roche. Donc voilà, on a toujours des bizarreries qui viennent un petit peu nous défier.
Patrick Michel, vous spoilez un tout petit peu l'émission, c'est mal, puisque c'est le sujet du reportage du jour, Quaoar, et on y vient dans un instant. Alors on l'a dit, le système solaire, les planètes géantes gazeuses telles que Jupiter, Uranus ou Neptune sont entourées d'anneaux, des anneaux qu'on explique, comme Patrick Michel vient de le dire à l'instant, par la limite de Roche. Mais une découverte réalisée en 2023 aux confins du système solaire bouleverse un peu notre conception de ces anneaux. L'étude en question révèle la présence d'un anneau autour d'une planète naine baptisée Quaoar, un anneau qui ne devrait pas exister selon les modèles établis. Pour le reportage du jour, Céline Lozen est allée au laboratoire spatial et d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique, le LESIA, de l'Observatoire de Paris, pour sonder cette énigme. Bonjour Céline.
Bonjour Antoine, oui, alors contrairement aux anneaux déjà connus, celui de Kwawa existe bien au-delà de la limite de Roche, une frontière théorique postulée en 1850 par l'astronome Édouard Roche. En deçà de cette distance, qui correspond à 2-3 fois le rayon du corps, les débris autour ne peuvent s'accréter pour former une lune en raison des forces de marée qui gravitent éparpillées en anneaux. Mais au-delà, ce sont les forces de cohésion qui devraient l'emporter et former une lune. Or, l'anneau de Kwawa existe à 7 fois la distance de son rayon. Le professeur Bruno Sicardi a résolu cette énigme en coopération avec l'université d'Oulu en Finlande par des simulations numériques qui traduisent la dynamique des particules en collision soumises à leur attraction mutuelle.
Pour expliquer ce qu'est la limite de Roche, c'est que tous les anneaux observés autour des planètes géantes et également Charles-Claude et Oméa sont à l'intérieur de la limite de Roche de les corps respectifs. Ce qui veut dire que les effets de marée dû au corps central va casser les satellites qui rentreraient à l'intérieur de cette limite et formerait donc des anneaux. Donc c'était l'image standard qu'on avait. Et puis c'est à peu près deux à trois fois le rayon du corps central. Hein. Alors après ça dépend des densités, etc.
Selon le modèle, en deçà de cette limite, on devra observer
Des anneaux. Qui était le cas pour Saturne, à l'intérieur de la limite de Roche, il y a des anneaux, à l'extérieur, des satellites, donc on était content. Et puis on a extrapolé peut-être un peu vite en disant tout le matériau qui est en dehors de la limite de Roche doit s'accréter en satellite, puisque les effets de marée qui cassent les satellites sont trop faibles. Et donc un satellite qui est là, il va rester là.
Trop faible par rapport à la cohésion possible.
Oui, c'est ça. Donc en regardant la cohésion de la glace, et ce qui était observé et confirmé par les planètes géantes, par Charles-Claude, par Aoméa, ils étaient à l'intérieur de la limite de Roche. Et ces deux anneaux de Kwawa étaient largement au-delà de la limite de Roche.
Quand vous dites largement, c'est à 7 fois la
distance. Oui, 7 fois et demi même. Pour le
du rayon.
Du rayon, alors que la limite, c'est plutôt 2 fois et demi. Donc vous voyez qu'il y a de la marge quand même. Et donc ça veut dire que l'idée des astronomes, des astrophysiciens, comme quoi tout matériau au-delà de la limite de Roche va se transformer en satellite, était erronée. Donc c'est un petit peu naïf de dire qu'à l'extérieur de cette limite de Roche, des satellites se forment. Et donc on a fait ensuite, suite à sa découverte, on a fait des simulations numériques de particules en collision, inélastiques, avec une certaine taille, etc., à cette distance à cette distance de l'anneau de Kwawa. Et on s'est aperçu de manière assez surprenante que c'était relativement facile de le maintenir sous forme d'anneau. Et la réponse à ce paradoxe, c'était qu'il suffisait d'avoir des collisions plus élastiques qu'on imaginait auparavant entre les particules.
Alors, les chocs élastiques font que les particules ne peuvent pas tant s'agréger parce qu'il y a moins de perte d'énergie.
Disons que ce qu'on appelle le coefficient de rebond, c'est en gros la fraction de vitesse après la collision par rapport à la vitesse avant la collision, c'est plutôt 0,3. Donc, les particules repartent l'une par rapport à l'autre.
D'accord.
Avec 30% de leur vitesse.
Elles rebondissent plus, quoi.
Elles rebondissent en général dans un autre Saturne, on estime, avec une vitesse qui est atténuée par rapport à la vitesse initiale, d'à peu près 70%, donc il n'y a que 30%, si vous voulez, de la vitesse initiale. Et tout ça marchait très bien pour Uranus, mais en fait, Uranus, Saturne, etc. Mais on s'aperçoit que dans certaines manips de labo, expériences de laboratoire montraient que la glace peut avoir des coefficients de rebond plus élevés, donc être plus élastique, avec des coefficients de 0,6, 0,7, et que si on introduit ces coefficients de rebond dans le modèle des anneaux de Kwawa, on s'aperçoit qu'on peut très bien maintenir ces particules à l'extérieur, à la limite de Roche. Donc les particules arrivent, donc entrent en collision et repartent l'une par rapport à l'autre avec une vitesse qui est 50 ou 60% de la vitesse initiale.
Alors
on pense que le fait qu'elle soit plus élastique, par exemple, que dans les anneaux de Saturne, c'est dû au fait que la glace est plus froide. Au Saturne, c'est à peu près 90 degrés Kelvin, hein, alors que sur Kwawa, on est plutôt sur des températures de 30-40 degrés Kelvin. Donc la glace est beaucoup, beaucoup plus froide. Quoi qu'il en soit, c'est la manie de labo ont montré que ceci était possible. Mais qu'avec ces coefficients de rebond et donc des collisions relativement élastiques, les particules repartent l'une par rapport à l'autre avec des vitesses suffisantes pour échapper à leur gravité mutuelle, et donc échapper aux fameux critères de Roche, donc ce physicien qui avait prévu que ça devrait former des satellites.
Alors que sont ces diagrammes?
Alors ça, c'est un petit bout des anneaux de Kwawa, donc on le place, les particules.
Là, on est dedans, là, c'est un zoom dedans?
On fait un zoom, hein. Les particules font 1 mètre de rayon, donc on fait un zoom, donc Kwawa est quelque part très loin par rapport à cet anneau. Et ça, c'est si on prend un modèle où les collisions sont assez inélastiques, ce qu'on appelle ici le modèle 1, Donc on le place, on fait tourner les collisions et on voit qu'il s'accrète en satellite.
Ça s'agrège quoi.
Ça forme un satellite, donc l'anneau disparaît. L'anneau disparaît et ça se fait très rapidement, c'est-à-dire en quelques semaines, donc c'est quasiment instantané.
Un peu de temps, oui, pour
au point de vue astronomique, les échelles astronomiques, c'est quelque chose d'instantané. Donc si vous mettez cet anneau avec un modèle relativement inélastique au point de vue collisionnel, au bout de deux, trois mois, vous avez des satellites. Par contre, si on prend le modèle 4, c'est un modèle qui a été mesuré en laboratoire où la glace était plus froide et les collisions donc plus élastiques. Donc ici, on a la dispersion de vitesse des particules. Et là, donc ça, c'est en ordonnée, en verticale. Et en horizontale, on a la masse volumique de ces particules. Donc 1000, c'est la glace d'eau. 10 000, c'est quelque chose de déjà très, très dense. Voilà. Et donc, si on augmente dans le modèle 1, donc celui qui est relativement inélastique, et qu'on arrive à des masses volumiques de l'ordre de 100, donc c'est un matériau poreux, très peu dense, il rentre dans la zone grise, et à ce moment-là, il se condense en satellite. Par contre, si on prend sur la courbe bleue le modèle 4 plus élastique, et qu'on augmente la masse volumique, on s'aperçoit qu'il faut arriver à des densités, des masses volumiques de l'ordre de 6000 pour entrer dans la zone grise, et c'est dans cette zone grise où le satellite se forme. Mais la glace d'eau, je vous rappelle, c'est à peu près 1000 kg par mètre cube. Donc c'est ici, donc elle est dans la zone blanche du diagramme. Et donc là, l'anneau se maintient, ce que j'appelle ici forme gazeuse, mais c'est pas du gaz, c'est plutôt des particules agitées les unes par rapport aux autres, et pas ce qu'on appelle une phase solide, où ces particules sont accrétées en un seul corps. Et il y a une transition assez brutale, en fait. Donc si vous imaginez l'anneau et que vous augmentez par la pensée la masse volumique des particules, donc il reste forme d'anneau, puis quand on obtient à peu près 5000, un peu plus, d'un coup l'anneau disparaît et apparaissent donc les satellites accrétés.
Merci beaucoup Céline Lozen. Je vous rappelle que vous pouvez désormais retrouver toute notre collection de reportages dans le podcast La Science au labo sur l'appli Radio France, mais aussi sur la page de La Science au labo sur le site de France Culture, franceculture.fr. Naomi Murdoch, à l'écoute de ce reportage, est-ce que vous ne vous dites pas que les choses se compliquent quand même encore un peu plus avec ces objets transneptuniens formés du côté de la ceinture de Kuiper qui ne sont pas censés avoir d'anneaux et qui en ont? Quel lien on peut établir justement entre Kawar et nos astéroïdes?
Pour moi, c'était un exemple parfait de à quel point notre intuition peut parfois ne pas avoir raison. Quand on réfléchit vraiment à la physique de ce qui se passe dans ces interactions, on réfléchit au fait qu'il fait froid, c'est de la glace qui va interagir dans ces collisions entre les particules, et du coup, les collisions sont plus élastiques, il y a moins de perte d'énergie. En fait, les simulations, ça fait sens maintenant, on peut le comprendre, mais il faut vraiment qu'on imagine, vraiment qu'on recommence à penser à quelle est la physique de base, quelles sont les forces qui dominent et qu'est-ce qui va changer dans ces corps. Il faudrait pas qu'on se trompe en réfléchissant toujours avec notre intuition basée sur notre expérience terrestre.
Patrick Michel, une réaction également à ce reportage et à ce propos de Bruno Sicardi sur Kawar?
Ah oui, absolument. D'abord, ça me fait plaisir d'entendre Bruno Sicardi. On est une grande famille, hein, donc on aime bien. Et puis d'autre part, ça montre, alors c'est ce que disait Naomi, que je renforce en disant que, vous voyez, il suffit qu'on change de matériaux, de température, pour qu'on ait des choses très différentes. Et en fait, comme les astéroïdes ont une variété de composition énorme, donc ça peut être de la roche, ça peut être même des minéraux qui ont vu l'eau, qui sont hydratés. Donc du coup, on aura des comportements aussi très variés, même pour une même gravité, selon la composition exacte de ces objets. Et donc c'est très important, comme on n'a pas encore la bonne intuition, de continuer à observer comment ils répondent à des sollicitations externes. Et d'ailleurs, jusqu'à maintenant, toutes les interactions qu'ils ont subies et qu'on a observées venaient de nous, que ce soit pour récolter un échantillon ou faire une expérience d'impact. Et on va avoir une opportunité unique et extraordinaire d'observer comment un astéroïde répond cette fois-ci à des forces naturelles, puisque le vendredi 13 avril 2029, sans aucun risque, parce que quand on dit vendredi 13,
oui, évidemment,
ça fait un peu peur, mais il n'y a aucun risque. On a un astéroïde qui s'appelle Apophis, qui fait 340 mètres de diamètre, qui va venir nous rendre visite à l'intérieur de l'orbite des satellites géostationnaires, c'est-à-dire à 32 000 km de la Terre, donc un dixième de la distance de la Terre à la Lune. On verra d'ailleurs sa lumière à l'œil nu depuis la France, le vendredi 13 avril 2029, et il passera si près que les forces de marée terrestre devraient exercer une influence pour changer ses propriétés. Et c'est d'ailleurs pourquoi, avec l'Agence spatiale européenne, on est en train de développer une mission qui s'appelle Ramsès, qui devrait aller voir Apophis pour observer comment, cette fois-ci, les forces offertes par la nature modifient potentiellement ses propriétés, à savoir créer des mouvements de surface, modifier son axe de rotation, fasse aussi peut-être des choses à l'intérieur. Et donc voilà, ce sont toutes ces missions-là, que ce soit Ramsès, même Hera, qui va arriver sur son astéroïde Didymos en octobre 2026, et à un moment donné, faire atterrir un des deux CubeSats, ces espèces de boîtes à chaussures munies de leur mode de propulsion et leur panneau solaire. Il y en a deux à bord d'Hera. L'un d'entre eux doit rebondir sur Dimorphos et, grâce à un accéléromètre, nous dire justement quels sont ces fameux coefficients de rebond qu'on a sur Dimorphos. On y a d'autres missions aussi. Donc, toutes ces interactions-là sur des corps différents vont nous permettre justement de mieux comprendre cette complexité, cette diversité, et de finalement nous habituer à celle-ci pour avoir une meilleure intuition, pour à terme, pouvoir les explorer en sachant exactement à quoi on a affaire.
On peut parler aussi, Patrick Michel, dans cette liste des missions à venir, en cours ou à venir pour comprendre cette microgravité d'une autre mission, Ramsès, donc en direction de cette lune Phobos de Mars. Alors là, on ne parle pas d'astéroïdes, mais quels sont les objectifs de cette mission-là et quel lien on peut faire avec les astéroïdes ?
Oui, alors là, c'est la mission MMX.
Apophis,
oui, c'est ça.
MMX, c'est
une mission japonaise qui est un retour d'échantillon de Phobos, l'une des deux lunes de Mars, celle qui est la plus proche d'ailleurs de Mars. On essaie de comprendre comment ces lunes ont été formées. Est-ce que ce sont des astéroïdes capturés ou est-ce que ce sont des débris d'un impact géant qu'aurait subi Mars ? D'ailleurs, il y aurait peut-être eu des anneaux. Toute la physique granulaire est encore là. Et justement, à bord de cette mission, les Japonais embarque un rover qui s'appelle IDFIX, qui est développé par le CNES et le DLR, l'Agence spatiale allemande, et qui doit servir de scout pour ensuite faire atterrir la sonde qui doit récolter des échantillons. Et c'est donc un rover qui doit rouler sur Phobos dans ces conditions d'extrêmement faible gravité. Donc c'est aussi une démonstration de la capacité de rouler sur un corps de très faible gravité, avec aussi bien sûr toute une science de mesure de composition in situ, etc. Mais sur ce rover justement, Naomi d'ailleurs est responsable de caméras qui vont observer comment le régolithe, donc le milieu granulaire qui recouvre la surface de Phobos, s'écoule autour du roue du rover, parce qu'encore une fois, on a besoin de ça pour savoir quel est le comportement de surface, parce que on ne peut pas le comprendre si on n'expérimente pas directement. Et là, cette mission qui doit être lancée en 2026 et fait déposer le rover fin 2028, va nous offrir encore une fois de nouvelles connaissances sur comment une surface répond justement à des roues qui interagissent avec elle, donc c'est absolument extraordinaire.
Si on se projette dans le futur, Naomi Murdoch, ce rover IDFIX sur la Lune Phobos, qu'est-ce qu'il nous permettrait de faire dans de futures missions spatiales habitées ou dans d'autres futures missions spatiales, peut-être plus d'ordre scientifique? Comment vous envisagez ce futur-là et l'impact que peut avoir ce genre de mission et d'observation in situ sur le futur de la recherche?
Déjà, le rover IDFIX qui va rouler à la surface de Phobos, comme disait Patrick, ce sera la première fois qu'on tente de rouler à une surface avec si faible gravité.
Qu'est-ce qui peut se passer concrètement?
C'est compliqué, parce que ici, on imagine quand on roule avec la voiture, on avance parce qu'il y a de la traction entre les roues de la voiture et la surface. Et cette traction, ça vient du poids, du poids de la voiture qui appuie sur le sol. Maintenant, si on imagine qu'on est sur la surface de la Lune de Mars, Phobos, là où la gravité peut être 2000 fois inférieure à la gravité terrestre, on enlève le poids n'est plus là. Et du coup, quand on va essayer d'avancer, on n'a pas la même force de traction pour avancer. Donc, on doit avancer très 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 lentement pour déjà ne pas décoller de la surface et pour ne pas trop patiner sur place non plus. Donc on va rouler vraiment à la vitesse d'un escargot, vraiment, à la surface, un millimètre à quelques millimètres par seconde, on va explorer la surface de Phobos. Et avec ce rover, on aura beaucoup d'instruments, mais on aura surtout ces caméras qui s'appellent les windcams sur le ventre du rover qui vont regarder ces interactions et essayer d'étudier comment cette surface se comporte quand c'est sollicité. Et ce sera vraiment la première expérience très en détail de la comportement de ces surfaces planétaires. Et c'est très, très, très important pour les futures missions vers les petits corps. Pourquoi? Parce qu'avec d'autres missions, si c'est les missions scientifiques qui veulent attirer à la surface des astéroïdes pour interagir avec les surfaces, ou si c'est pour les missions d'exploitation d'astéroïdes, n'importe quel type de mission qui doivent toucher et interagir avec les surfaces, les comportements, comment la surface vont réagir à ces sollicitations, c'est extrêmement important.
Patrick Michel, on approche de la fin de cette émission. Ce genre de mission très impressionnante, on le rappelle, et de compréhension de la microgravité ont des enjeux très très concrets. Rappelez-nous vraiment c'est l'importance qu'ont ces enjeux-là et l'importance aussi de ces missions qui nous semblent totalement folles vues d'ici.
Oui, alors absolument. En fait, les astéroïdes et les petits corps, ils ont un avantage, c'est qu'en fait, ils intéressent plusieurs communautés, mais qui ont besoin finalement des mêmes connaissances qui sont justement quelles sont les propriétés de ces astéroïdes et comment ils répondent aux sollicitations qu'on leur fait subir. Donc il y a des raisons scientifiques puisque ces objets sont parmi les meilleurs traceurs de l'histoire du système solaire. Ils ont gardé la mémoire de la composition initiale de la nébuleuse solaire. Ils ont peut-être contribué à l'émergence de la vie sur Terre. Donc il faut les explorer, en ramener des échantillons, ce qui nécessite une interaction. Ensuite, il y a les objectifs de défense planétaire. Pour pouvoir se protéger du risque d'impact, il faut savoir les dévier. C'est encore une fois une interaction. Et puis, il y a aussi l'ambition de potentiellement, à terme, les exploiter pour, par exemple, les utiliser comme des stations-service pour se réalimenter en carburant et explorer des régions plus lointaines du système solaire sans utiliser les ressources terrestres. Et encore une fois, pour faire ça, il faut interagir avec eux. Donc, tout ce que l'on fait, tout cet apprentissage, toutes ces connaissances qu'on a à chaque interaction nourrissent en fait ces différents objectifs très différents hein, et qui impliquent des communautés aussi très différentes, mais qui ont besoin essentiellement des mêmes informations. C'est pourquoi je pense qu'on vit cet âge d'or de l'exploration des astéroïdes. Je compte pas moins de, je crois, 8 missions, soit en vol ou en développement, pour observer, alors pas toujours interagir, mais en tous les cas, soit survoler ou faire des rendez-vous avec des astéroïdes, parce que, le monde entier, finalement, les agences spatiales comprennent bien l'enjeu, puisque de tas de communautés s'y intéressent pour différentes raisons, mais ont pour l'instant, en tous les cas, besoin des mêmes connaissances. Donc je dirais qu'on vit une période extraordinaire pour la science des petits corps et on devrait avancer de façon très ample dans nos connaissances dans les prochaines années.
Et on souhaite longue vie à cet âge d'or de l'exploration des astéroïdes. Et c'est vrai que c'est fascinant de se dire qu'en si peu de décennies, on a pu se poser sur des astéroïdes. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux, Patrick Michel, Naomi Merdoch. Merci beaucoup aux équipes d'ICI Occitanie à Toulouse pour le duplex aujourd'hui. À présent, il est l'heure, comme chaque jour, de retrouver Alexandra Delbo qui nous parle aujourd'hui d'un sujet qui nous éloigne un tout petit peu de la microgravité. C'est la chronique Avec Science.
Et si les chimpanzés avaient le sens du rythme? Les systèmes de communication des animaux sont très variés et parfois similaires à ce qu'on retrouve dans notre musique. Les oiseaux chantent, les baleines aussi, et certains animaux tapent la mesure. Le seul vrai batteur du monde animal, c'est le cacatoès des palmiers, un oiseau qui tape en rythme avec de petits morceaux de bois tenus avec ses pattes. Le but est d'attirer des femelles. Autre espèce, cette fois mammifère, le rat kangourou, lui, cogne le sol. Ça ne lui sert pas de parade à mais pour marquer et défendre son territoire. Les chimpanzés tapent eux aussi directement sur les racines des arbres pour communiquer, un son qui peut s'entendre jusqu'à 1 km, mais qui restait pour l'instant assez peu étudié en milieu naturel. Adrien Soldati est chercheur postdoctorant dans le département d'anthropologie évolutionniste de l'Université de Zurich.
Il y avait quelques études sur les chimpanzés en captivité, où il y avait des exemples de certains individus qui en fait produisaient ces bizarres comportements rythmiques. Et il y avait ce cas, par exemple, d'un chimpanzé seul qui, en captivité, faisait des tambourinages très longs, des minutes, tout seul, sur, je pense que c'était un conteneur de peinture vide. Il le faisait comme ça, on ne comprenait pas, il n'y avait pas d'autres chimpanzés qui entendaient ça, il n'y avait pas un fonctionnement communicatif. Donc nous, on a voulu commencer à travailler sur ça, sur une population, l'Ouganda, en 2022. Et là, c'était pour montrer en fait que les chimpanzés ont aussi des variations individuelles, donc chacun produit des tambourinages sur les arbres qui sont différentes entre eux. Donc on peut même les reconnaître en les entendant.
Il s'agit d'une seule communauté de chimpanzés d'une forêt en Ouganda. Est-ce un phénomène généralisé? Est-ce qu'ils se retrouvent partout, chez tous les chimpanzés, toutes les communautés, toutes les sous-espèces? Et est-ce que ces tambourinages de racines d'arbres présentent une rythmicité ou est-ce que ces animaux cognent un peu au hasard? C'est ce qu'ont voulu étudier ces scientifiques dans une nouvelle étude parue dans Current Biology et dont ce chercheur est co-auteur. Et pour cela, il faut les prendre sur le fait. Et au début, c'est un peu par chance. Puis, les scientifiques ont appris à reconnaître les signes précurseurs. Au total, 11 communautés ont été suivies, 400 tambourinages différents ont été enregistrés pour 2 sous-espèces. Il y a à la fois des chimpanzés occidentaux, aussi appelés les chimpanzés verus, qui vivent surtout au Sierra Leone et en Guinée, et des chimpanzés orientaux, dits chimpanzés à poils longs, qui habitent plutôt au centre de l'Afrique, de la République centrafricaine jusqu'à la Tanzanie. Résultat, il y a bien un rythme, rien n'est dû au hasard, mais plus que cela, les rythmes sont différents en fonction des sous-espèces. Attention, ça décoiffe un peu.
Chimpanzés de l'Ouest produisaient des tambourinages isochrones. Et c'est-à-dire qu'il y avait des intervalles réguliers entre les battements, comme le tic-tac d'une horloge. Et en revanche, les chimpanzés de l'Afrique de l'Est produisaient des tambourinages qui alternaient des intervalles plus courts ou plus longs et aussi des séquences de plusieurs battements. Donc, il y avait un peu plus de variation dans la durée des intervalles et la manière dont ils tapaient avec plusieurs coups dans le Est de l'Afrique. Et là, une autre différence, c'était aussi que dans le Ouest, ils tambourinent à un rythme un peu plus rapide. Donc, il y avait un rythme, disons, général dans les chimpanzés, mais il y avait aussi une différence entre ces deux sous-espèces. Et ça, on ne s'attendait pas, et c'est le résultat plus excitant, disons. Et ces communautés habitent dans des environnements et des habitats différents. Donc, ce n'était pas les différences dans l'écologie qui donnaient des résultats différents dans le tambourinage.
Ces différences ne s'expliquent pas par leur lieu de vie ou par la nature des racines d'arbres sur lesquelles ils tapent. Alors, comment l'expliquer? L'hypothèse, pour l'instant, porte sur l'organisation sociale des deux sous-espèces. Les chimpanzés de l'Ouest sont un peu plus soudés, ils passent plus de temps ensemble et donc n'ont peut-être pas besoin de varier autant dans la régularité de leurs coups parce qu'on le rappelle, il s'agit d'une forme de communication, mais les inconnus demeurent encore. Est-ce que les différences sont acquises? Est-ce qu'ils apprennent en regardant les autres faire? Est-ce une forme de tradition? Les enregistrements ne sont finalement que la photographie finale de ces rythmes. L'enjeu est maintenant de voir leur évolution au cours de la vie des individus pour peut-être percevoir une forme de culture comme chez nous, les humains.
Merci beaucoup Alexandra Delbo. On vous retrouve très bientôt pour votre prochaine chronique avec Science. Un grand merci à toute l'équipe de la Science CQFD, Lou Anget, Céline Lozen, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Ali Ruyer-Thompson, Eve Etienne, Loïc Dutoit, Alexandre Morales, Natacha Triou, à la technique, à la réalisation Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui Marie-Claire Oumabadi. Vous pouvez réécouter sur le site de France, cette émission sur le site de France Culture ou bien sur l'appli Radio France. On se retrouve bientôt dans la Science CQFD et en attendant, gardez le bon cap. Il y a toujours une terre de science en vue.